Merci Fred. Est-ce que vous avez besoin de vous détendre un petit peu? Non? Ça va? On peut continuer? Ok. Sinon, je vous propose alors de vous lever sur place, de faire un tour comme ça. Hein? Et puis de vous asseoir. Voilà. Je vais continuer pour ma part. Donc, si tu peux mettre le PowerPoint. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de visibilité, mais bon. Ceux qui peuvent suivre, c'est bien. On a voulu faire ce week-end de rentrée d'église en ne pas parlant d'organisation. Hein? Pour pas que l'on confonde, l'église, et Fred l'a rappelé, n'est pas une organisation. Souvent, on vient nous poser la question, que ce soit Pascal ou à moi ou à un des responsables d'église, mais qu'est-ce que fait l'Église pour un tel? Qu'est-ce que fait l'Église pour les pauvres? Qu'est-ce que fait l'Église pour une telle personne? Et souvent, je suis ramené à répondre, qu'est-ce que tu fais, toi, pour les pauvres? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour cette personne-là? Si on sort de ce week-end en disant, l'Église, c'est un ensemble d'individus, comme disait Fred. C'est une famille. On aura gagné, je dirais, notre pari. Voilà. C'est pour ça que ce week-end, on n'a pas voulu parler d'organisation, revenir simplement aux fondamentaux, comme disait Fred, de ce qu'est l'Église. Famille de Dieu, peuple de Dieu. Et je pense que c'est vraiment important. Il faut vraiment que nous puissions capter ensemble, de manière spirituelle, ce que nous sommes ensemble. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire, je dirais, un peu révolutionner notre façon de voir. Souvent, en début d'année, on dit, on va organiser ceci, on va organiser cela. Et puis, on a l'impression que quand tout est organisé, eh bien, l'Église est là au top. Alors, c'est vrai que l'organisation, la vie s'organise, n'est-ce pas? La vie, elle doit être organisée, elle s'organise. Mais si on résume l'Église à une organisation, on passe à côté de quelque chose. Parce que l'organisation, à un moment donné ou à un autre, elle va faillir. Ou on se dit, ça y est, l'Église, elle a tout fait, elle a tout construit, il n'y a plus rien à faire. Et puis, on s'endort sur nos lauriers. Alors que l'Église, c'est un organisme, c'est une famille. C'est-à-dire qu'il y a chaque jour son défi de vivre la famille. Hein, parce que, je ne sais pas chez vous... peut-être les enfants sont en retard, peut-être la voiture est tombée en panne, il faut aller dépanner un des enfants, etc. Ou ils ont eu un petit accident, ou un est malade, etc. Et donc la vie, elle s'organise en fonction des besoins journaliers, voyez. Et donc, se dire on a construit toute la vision de l'Église en un week-end, eh bien on rate quelque chose. Alors l'Église... On le retrouve deux fois dans la bouche de Jésus. Fred nous l'a dit. Je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne préfonderont point contre elle. Tu peux passer, là. Je vais revenir à ça, plus loin. Voilà, c'est ici. Deux fois dans la bouche de Jésus. Jésus a davantage parlé du royaume que de l'église. Il a parlé que deux fois de l'Église. Donc, une fois dans le verset que cite Fred, et une autre fois, je dirais de manière plus locale, il a parlé d'abord de manière universelle, « Je bâtirai mon Église », l'Église avec un grand E, mais aussi il a donné une implication concrète et visible, palpable, lorsqu'il parle de la question, certains l'appellent de la discipline, moi je ne l'appelle pas comme ça. Je l'appelle plutôt de la question de la garde des frères les uns par les autres. Alors il dit ceci, Jésus, « Si ton frère a péché, va reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Alors s'il fallait réunir toute l'Église universelle, lorsqu'il y a un conflit ou lorsqu'il y a un péché qui se met, on ne serait pas abouti là, d'accord? Dis-le à l'Église, donc c'est-à-dire à l'aspect local de l'Église. Voilà. Et je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ces deux textes témoignent de deux aspects différents de l'Église. Tu peux passer. L'Église dans son aspect universel, l'Église dans son aspect local. Et je répète des vérités qu'on vient de lire. C'est Jésus qui bâtit l'Église. Mais c'est tellement formidable de savoir cette vérité-là. Moi, en tant que responsable d'Église, le conseil en tant que responsable d'Église, eh bien, on s'appuie sur cette vérité-là. Jésus bâtit l'Église et bâtit l'Église locale. Si ça devait reposer juste sur mes propres épaules, ben je vous donne ma démission aujourd'hui. Hein. Non, vous ne la voulez pas ? C'est raté. C'est raté. Jésus bâtit l'Église. Jésus bâtit l'Église. Il se sert des ministères, il se sert des uns et des autres pour construire, pour bâtir. Mais c'est Jésus qui bâtit l'Église. C'est lui qui en est la tête, c'est lui qui en est le fondement. Hein? Et dans les deux textes que nous avons lus aussi, il y a cette nécessité de l'Église pour la garde de la foi. Les disciples se gardent les uns et les autres. Si tu vois ton frère pécher, si tu vois ton frère s'éloigner, si tu vois ton frère tomber, eh bien, prends-en soin, c'est ça que ça veut dire. Hein? Prends-en soin, va le reprendre, va lui parler. Et c'est extrêmement important, ça. La nécessité de l'Église locale pour la garde de la foi. Un chrétien qui vivrait seul manquerait cette dimension-là, vous voyez ? Et troisième aspect, l'Église, une communauté différente du monde, et là on s'aperçoit que si le frère ne revient pas à la repentance ou ne revient pas dans des bonnes dispositions, nous sommes appelés en tant qu'Église à avoir un rapport un petit peu différent de l'ensemble de la communauté. Tu le considères comme un publicain et comme un païen. Et un publicain et un païen, il a besoin de grâce, n'est-ce pas ? Et Jésus, il n'a pas été loin des publicains et des païens. Hein ? Voilà. Gérard, il aime parler « Jésus est l'ami des pécheurs ». Hein? Et c'est vrai que Jésus est l'ami des pécheurs. Et puis, il y a cette extraordinaire déclaration de Jésus par rapport à l'Église qui est dans sa localité. « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Je suis au milieu d'eux. Voilà. Et donc, l'Église a une vision particulière, non seulement de percevoir la présence de Jésus au milieu d'elle, mais en même temps, elle a cette mission aussi de manifester la présence de Jésus au travers d'elle, au monde dans lequel le Seigneur l'a placé. Parce qu'il ne nous a pas enlevés au ciel directement, il nous a laissés sur place. Je suis au milieu de vous, Jésus, c'est sa promesse. Je suis au milieu de vous, non seulement pour que vous puissiez jouir de ma présence, mais pour que vous puissiez manifester ma présence au monde qui est extérieur à vous. Donc je le disais, tu peux passer la diapo, Jésus a davantage parlé du royaume que de l'Église, et les épîtres parlent davantage de l'Église et des Églises que du royaume. Alors quel est le lien entre ces deux entités, Église et royaume ? Je vous rappelle simplement que des simples faits que l'on prêche de dimanche en dimanche, etc. Hein? Voilà. Je vous cite M. Lade, qui a beaucoup parlé sur le royaume. Le royaume est d'abord le règne ou l'autorité royale dynamique de Dieu, et de façon dérivée la sphère dans laquelle s'exerce cette autorité. En langage biblique, le royaume ne s'identifie pas avec ses sujets. L'Église est le peuple du règne de Dieu. Ils y entrent, ils vivent sous son autorité et sont gouvernés par lui. L'Église est la communauté du royaume, jamais le royaume lui-même. Les disciples appartiennent au royaume comme le royaume leur appartient. Ils ne sont pas le royaume. Le royaume est le règne de Dieu. L'Église est une société humaine qui a été voulue par Dieu et que Jésus bâtit. Donc tu peux passer l'autre diapo, c'est écrit un peu plus gros. Voilà. Entre royaume et Église, eh bien, ça ne peut pas se confondre. Ils ne se confondent pas, les deux termes ne se confondent pas, les deux termes ne sont pas interchangeables. Jésus, il n'est pas venu pour prêcher la bonne nouvelle de l'Église, Il est venu pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez la différence quand même ? L'Église est le peuple du royaume. Vous êtes le peuple du royaume. Nous sommes ensemble le peuple du royaume. Elle est créée par lui. Et je trouve cette phrase extraordinaire. L'Église est une ambassade du royaume. C'est comme si le royaume se manifestait au travers du peuple de l'Église dans le monde, ambassadeur de Christ et de son règne dans le monde qui ne le connaît pas. Nous sommes une ambassade. Vous êtes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs lorsque nous sommes réunis ensemble. Ok ? Les ambassadeurs, c'est un certain titre. C'est une certaine aura. Vous avez une certaine aura, vous avez un certain titre. L'Église est une ambassade du royaume. Voilà, ambassadeur du Christ. Elle témoigne du royaume. Certains ont dit même qu'elle est, l'Église est une colonie du royaume. Alors ça, j'aime bien ça parce que ça fait penser, moi, de suite au western. Lucky Luke, les caravanes qui se mettent en cercle lorsque les Indiens les attaquent. Qui sont dans le Far West pour coloniser un territoire qui est totalement vierge. Nous sommes une colonie du ciel. Voilà. Et ensemble, on peut se mettre autour. Voilà. Et si on est attaqué par les Indiens, on est ensemble et on se défend. Vous voyez ? Une colonie du royaume. On peut passer à la diapo suivante. Chaque fois qu'un homme ou une femme accepte le règne de Jésus-Christ sur sa vie, le règne, le royaume de Jésus-Christ sur sa vie, eh bien, il est ajouté à l'Église. Il est ajouté à l'Église. La conversion, qu'est-ce que c'est ? La conversion, c'est lorsque quelqu'un se tourne vers Jésus-Christ pour demander pardon à Jésus-Christ. Mais en même temps, la conversion, c'est pas simplement l'acceptation d'un salut ou d'un pardon. La conversion, c'est aussi la reconnaissance qu'il y a un Seigneur qui est au-dessus de tous les autres seigneurs. Les premiers chrétiens étaient confrontés à un homme qui s'appelait César, qui était empereur. Vous voyez ? Et on a cité les lettres de Pline à Trajan. Ils étaient embêtés parce que les chrétiens disaient « il n'y a qu'un seul Seigneur et César n'est pas le Seigneur, Jésus est le Seigneur ». Et ça faisait pas bien dans la société romaine de l'époque. Et alors, il y a eu des persécutions contre le peuple chrétien, mais il suffisait qu'un chrétien dise « Je reconnais César comme Seigneur » et il était libre. Et il était libéré et il n'allait pas dans la fosse aux lions et il n'était pas persécuté. Mais les chrétiens reconnaissaient à l'époque de l'Église primitive qu'il n'y avait qu'un seul Seigneur. Qu'un seul Seigneur. La conversion, c'est pas simplement demander pardon à Jésus-Christ, mais c'est aussi lui donner sa propre vie et le reconnaître comme Seigneur. Là, je crois que c'est très important, ça. Hein ? Parce qu'on a oublié dans notre société qu'on doit être radical, en quelque part. Hein ? Reconnaître Jésus comme Seigneur. Jésus comme Sauveur, mais aussi Jésus comme Seigneur. Et là, je vous cite les versets, acte 2, versets 36 à 47. C'est Pierre qui prêche, le Saint-Esprit descend sur la première église, là. L'église est fondée, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Voilà, la foule est attirée par le bruit, ils sont là. Et Pierre, il n'a pas préparé son sermon, mais il prêche sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et les gens sont touchés dans leur cœur. Et il conclut son sermon, sa prédication, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Vous voyez ? La Seigneurie de Jésus. La Seigneurie de Jésus. Pas seulement le pardon, mais la Seigneurie de Jésus. Et après, les gens se disent, alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, convertissez-vous. Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Et c'est marqué en conclusion, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà. Hein? Voilà. Comment fait-on partie de l'Église ? En étant sauvé. Le Seigneur, lorsque quelqu'un, il y a ce miracle de la conversion, eh bien, il est ajouté de manière automatique à l'Église. Ok ? Je suis né en France, j'ai rien fait pour demander. Enfin, je suis pas né en France, je suis né en Algérie, mais c'était français à l'époque. Hein. C'était français. Mais mes parents n'ont pas fait une demande de nationalité, etc. Je suis né en territoire français, en département français, Christian. Hein? Département français. Je suis né français. Voilà. Quand quelqu'un naît de Dieu, naît de l'Esprit, il est automatiquement ajouté à l'Église. Il fait partie de l'Église. D'accord? Ça, c'est important. On va passer la diapo suivante. On va la passer l'autre. L'Église n'est pas une organisation que l'on rejoint par choix. Ce n'est pas les gens qui choisissent de faire partie de l'Église avec un grand E ou pas. On devient membre de l'Église lorsqu'on naît de nouveau. Okay? Alors, c'était facile à l'époque. C'était facile à l'époque de l'Église primitive, puisque à Jérusalem, Fred nous le disait, Église universelle et Église locale se confondaient. Alors, je ne vais pas entrer dans les débats théologiques ce matin. Donc, à Jérusalem, l'Église universelle était confondue avec l'Église locale dans un lieu donné. Après la dispersion dans les Actes des apôtres, nous voyons qu'il y a des églises locales qui sont créées. Partout où les chrétiens ont été dispersés à cause de la persécution, se crée de manière automatique une communion, une rencontre des chrétiens, et là naissaient des églises locales. Voilà. Même dans l'église de Rome, il y avait plusieurs églises qui se réunissaient dans les maisons. Et l'apôtre Paul dit bien, salue l'église avec un grand E qui se réunit dans la maison. Vous voyez, ce n'est pas une organisation, c'est quelque chose de plus que ça. Et lorsque quelqu'un devenait chrétien, l'Église primitive, il rejoignait de manière automatiquement, eh bien, l'Église dans la localité où il naissait. D'accord? Alors, c'est devenu un peu plus compliqué maintenant. C'est maintenant devenu un peu plus compliqué parce que à Nîmes, l'église locale, si on veut prendre la définition de l'église locale de Nîmes, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'Assemblée chrétienne, ce n'est pas les ADD. L'église locale, c'est l'ensemble de tous les chrétiens de Nîmes qui sont nés de nouveau. Vous voyez? Ça, c'est l'église locale de Nîmes. Ce n'est pas l'Assemblée chrétienne de Nîmes. Loin de là. Il y a eu peut-être, à un moment donné, dans notre histoire, on pensait que peut-être on était là. Seule et la vraie église de Nîmes. Le Seigneur nous a fait tomber de notre piédestal. Non, au contraire, nous a ouvert la voie sur la richesse de l'église au sein de la ville. Voilà. Et ça, c'est une bonne chose. Vous savez que chaque mois, nous nous réunissons avec les pasteurs des églises évangéliques et nous essayons de construire quelque chose que nous pouvons vivre ensemble. Et c'est une bénédiction, vraiment, vraiment. Alors, l'histoire a vu se créer de nombreuses églises dénominationnelles sur la base des différences de doctrine majeures ou mineures, ou simplement des prises de position. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un devient chrétien, il est appelé à conscience, en conscience, malgré le choix d'églises locales dénominationnelles, à se rattacher, à adhérer, à faire partie du corps local de l'église pour confirmer son appartenance à l'église avec un grand E. Pour témoigner du royaume avec les autres sujets du royaume que nous sommes. C'est Fred qui disait tout à l'heure, l'Église n'est pas parfaite. Alors je sais que. Alors moi, j'ai été gardé dans cette assemblée depuis de longues dates. Voilà. Il y a des gens qui ont été éduqués dans notre assemblée de longue date et qui ont découvert la foi. Aussi dans cette assemblée. Puis il y a d'autres personnes qui sont venues d'autres assemblées locales parce qu'ils ont été blessés, touchés, etc. Voilà. Et on les a accueillis. Voilà. Mais si ces personnes-là, lorsqu'ils viennent chez nous, ils vont trouver des différences. Ben, dans mon assemblée, on faisait telle chose différente, etc. Notre église locale n'est pas une église parfaite. Fred l'a dit, moi je le redis. Encore. Et on risque peut-être de vous décevoir. Et on risque peut-être de vous faire mal. Et on risque encore de se faire mal les uns et les autres. Mais nous sommes l'Église à laquelle vous avez adhéré. Personne ne vous a harponner, vous avez dit, c'est là que je veux prendre racine, en quelque part. Et c'est une bonne chose. Et on va faire en sorte d'agir ensemble, d'être une famille ensemble, malgré nos imperfections. C'est important. Alors, je voulais aussi rappeler que l'église locale n'est pas l'ensemble des réunions. L'église locale n'est pas l'ensemble des réunions. L'église locale se réunit, mais l'église locale vit en dehors des réunions. L'église locale, c'est pas simplement la réunion du dimanche matin ou de la réunion maison, etc. L'église locale se réunit. Et il y a des personnes dans notre église locale qui font le lien fantastique entre les membres des uns et des autres. Merci à eux pour ce ministère de, je dirais, de lien en dehors des réunions. Et ça, je crois que c'est très important. On peut passer notre diapo. Parce que l'Église est ambassade du royaume et du règne de Dieu, sa culture est celle du royaume. Voilà. La culture est celle du royaume. L'Église cherche à développer par le Saint-Esprit cette culture que l'on sent lorsqu'on lit les évangiles. Hein? Et lorsque on lit les évangiles, eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, Jésus nous enseigne à aimer nos ennemis, à rechercher la grandeur du service. En quoi elle est grande, cette notion de service, hein? Celui qui veut être le plus grand au milieu de vous, qu'il soit le serviteur. La recherche du bien d'autrui. Tu peux changer la diapo, si tu veux. L'abolition des barrières socioculturelles dressées par la culture environnante. L'Église a été une nouveauté extraordinaire. Hommes et femmes réunis ensemble, juifs et grecs réunis ensemble, hommes libres et esclaves réunis ensemble. L'Église a été une nouveauté extraordinaire. Je crois qu'elle a, nous avons besoin de redécouvrir aussi cette nouveauté au sein de notre culture qui est en train de mettre des carcans, hein, des barrières. Voilà. Alors, je vous avais posé la question au mois de juin. Est-ce que l'Église est une communauté de saints ou une communauté de pécheurs? Vous vous rappelez la question? Je ne sais pas si vous avez cogité. Hein? Alors, je vous donne un élément de réponse, là. L'Église est une communauté de saints. Hein? Une communauté de saints parce que on est sanctifié en Jésus-Christ, rendu saint en Jésus-Christ. C'est 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, il nous est dit. Voilà. Le Saint-Esprit nous modèle, le Saint-Esprit nous transforme, nous rend aptes à témoigner et à refléter la nature de peuple du royaume, de famille de Dieu. D'accord ? Et lorsque nous sommes réunis ensemble et que nous écoutons la parole ensemble, il y a tellement de choses qui tombent au milieu de nous, tellement d'idoles qui tombent au milieu de nous. La tyrannie de l'argent, ça n'existe plus au milieu de nous. La tyrannie du pouvoir, ça n'existe plus au milieu de nous. On recherche la seigneurie de Jésus et non pas l'autorité d'un tel ou d'un tel. Voilà. Hein? Alors, parce que nous sommes une communauté de saints appelés à refléter la culture du royaume, on va passer la diapo suivante, eh bien, nous devrions faire preuve, c'est dur, c'est difficile en négatif, voilà, nous devrions pas tomber dans le misérabilisme. Voilà. Nous sommes une pauvre communauté. Il n'y a que des faibles au milieu de nous. Oui, il n'y a que des faibles au milieu de nous, l'apôtre Paul le dit. Mais c'est afin que la force et la puissance de Dieu se manifestent au milieu de la faiblesse. Pas de misérabilisme. Voyez ? Et on a prié ce matin, on a prié dimanche dernier, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints que vous êtes, que nous sommes ensemble. Pas de misérabilisme. Voilà. Nous sommes la colonie du royaume de Dieu. Ensemble, à Nîmes. Nous sommes l'ambassade du royaume de Dieu lorsque nous sommes réunis ensemble sur Nîmes et avec les autres assemblées. Alors j'ai mis un « mais » quand même, hein, pas de misérabilisme. L'Église est une communauté de saints elle est aussi une communauté de pécheurs. D'accord? Car si le royaume est une réalité qui est déjà là, elle est aussi une réalité qui est à venir. Nous avons toujours besoin de nous rappeler qui nous étions et d'où nous venons. Nous avons toujours besoin des moyens de grâce que le Seigneur a mis à notre disposition. Nous avons à confesser nos péchés les uns les autres. Nous avons à vivre de la scène. La scène, ce n'est pas simplement un mémorial, c'est aussi un moyen de grâce que Dieu nous donne. Lorsque nous sommes loin de Dieu, la possibilité de revenir vers le Seigneur. C'est un moyen de grâce que le Seigneur nous donne, vous voyez. Nous avons toujours à progresser et d'avancer dans la sainteté par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas arrivés, frères et sœurs, on avance, on progresse. Nous avons à nous pardonner réciproquement. Nous avons toujours à nous soumettre les uns des autres. Nous avons toujours à apprendre l'obéissance. Nous avons toujours à nous encourager, à porter nos fardeaux, à prier les uns pour les autres. En fait, l'Église est une communauté sous la croix. Et j'aime cette expression, communauté sous la croix. Nous avons toujours à vivre sous le principe de la croix, mourir à nous-mêmes et vivre pour Jésus-Christ. Et ça, c'est une marche quotidienne. La semaine dernière, j'ai prêché sur... Sur quoi j'ai prêché la semaine dernière ? Pierre vivante, approchez-vous de Jésus-Christ, pierre vivante. Alors ma femme m'a dit, Norbert, tu étais débraillé, on voyait un petit bout de ton ventre. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui l'ont vu ?
Oui.
Qui l'a vu ? Voilà. Et vous n'avez pas osé me le dire ?
Non.
Vous m'avez laissé être ridicule pendant une demi-heure. Mon frère Luc m'a dit, je priais intérieurement pour que tu restes derrière la croix. C'est un bon principe, il nous faut toujours rester derrière la croix. On ne voit pas nos défauts, parce qu'on voit la croix de Jésus-Christ. Frères et sœurs, s'il m'arrive encore cette aventure-là, levez la main, Norbert, tu es un petit peu débraillé, rembraille-toi. Je me retournerai, je me embraillerai et puis je vous parlerai. Peut-être le message parlerait mieux encore, voyez. Peut-être il y a des gens qui se sont regardés, ils ont regardé le nombril de Norbert, ils n'ont pas écouté ce que je disais. Ce que je disais était plus important que le nombril. Être derrière, j'ai trouvé que l'image de Luc le disant, je priais pour que tu restes derrière la croix, était très parlant, voyez. Il faut que nous restions tous ensemble derrière la croix. Voilà, pour ne pas voir nos défauts. Il y a Jésus-Christ qui est là. Et nous sommes une communauté sous la croix. Alors, pas de misérabilisme, mais aussi pas de triomphalisme. Et j'aime ce principe de l'histoire de la réforme qui dit que l'Église est toujours appelée à se réformer. Et alors, notre Église a toujours besoin de se réformer. Nous ne sommes pas arrivés. Nous avons besoin d'avancer et d'avancer et d'avancer. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape, c'est notre étape qui s'ouvre devant nous. Seigneur Jésus, conduis-nous dans cette nouvelle étape, ensemble, en tant qu'Église, en tant que corps local, ensemble, avec les personnes que nous sommes, des pierres vivantes qui s'approchons de Jésus-Christ, la pierre vivante qui nous donne la vie. Amen.